midi à 13h30.
Midi première.
Fabienne Vandemersch.
Et également Gabriel Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien membre du Conseil supérieur de la justice, chroniqueuse sur le site de débat citoyen Entre les lignes. On va en parler dans un instant. Et Éric David également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Professeur David, vous êtes professeur émérite de droit international à l'ULB, président du Centre de droit international de l'ULB. Et vous êtes les deux auteurs de ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Juger les multinationales, avec en sous-titre Droits humains bafoués, ressources naturelles pillées, impunité organisée, paru chez Mardaga, et c'est une édition du GRIP. Alors, peut-être d'abord une première question à tous les deux. Les crimes dont vous parlez, ce sont des crimes équivalents à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, à des crimes contre la nature. Est-ce que, en disant juger les multinationales, vous mettez, professeur David, toutes les multinationales dans, si je puis dire de façon un peu triviale, le même panier?
Une multinationale n'est pas un être malfaisant par définition. Je suis personnellement membre d'un certain nombre de multinationales sans but lucratif, comme Amnesty International, hein, ou Oxfam International, ou la Croix-Rouge Internationale. Ce ne sont évidemment pas de ces multinationales-là que nous parlons. Ce sont des multinationales tout à fait classiques, comme on les connaît dans le langage courant, qui sont des multinationales à caractère commercial ou industriel, et qui, dans leur manière de travailler, peuvent être conduites, en effet, à commettre ce que l'on peut qualifier être des crimes de droit international.
Mmh. Vous les avez, d'une certaine façon, Gabriel Lefebvre, recensés, même si la liste n'est pas évidemment exhaustive, dans les agissements qu'elles ont pu avoir et qui sont à déplorer. Voilà, c'est comme ça un peu qu'on peut présenter,
oui,
le livre.
Oui, j'ai essayé d'avoir des multinationales ayant des productions extrêmement différentes, qui sont situées dans des parties du monde différentes ou qui ont des sièges d'exploitation, si j'ose dire, ou des filiales dans des régions différentes du monde, afin d'avoir un panel. En plus, l'autre critère de sélection était qu'elles étaient déjà l'objet de poursuites au niveau judiciaire. Et ainsi, c'était parfaitement documenté. On pouvait analyser, d'un point de vue juridique, ce qui s'est réellement passé depuis l'agent orange utilisé au Vietnam, jusqu'à présent, par exemple, les multinationales du textile, ou bien ce qui se passe depuis 50 ans chez le Nigeria. Franchement, les documents sont là. Le problème est que la justice n'arrive toujours pas à s'appliquer. Mmh. Et il est intéressant de montrer historiquement pourquoi elle n'arrive pas à s'appliquer, malgré les tentatives et les mesures parfois fortes de régulation, d'abord par l'Organisation mondiale du commerce, le groupe Banque mondiale, etc., et les tentatives d'auto-régulation du monde des entreprises lui-même. On constate malgré tout, malgré certaines condamnations, il y en a quand même certaines, mais elles ne représentent rien par rapport à l'ampleur des dégâts de certaines de ces multinationales, je dis bien, dans certains endroits du monde. Et donc, voilà, il était extrêmement intéressant de noter que ce sont deux pays, l'Équateur et l'Afrique du Sud, qui ont eux-mêmes été extrêmement marqués dans leur histoire récente et ancienne par des agissements de multinationales. Ces deux pays-là ont saisi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin de demander un système vraiment contraignant, une sorte de cour pénale internationale applicable aux multinationales. Et les négociations sont en cours maintenant pour essayer d'élaborer cet instrument contraignant. Et c'est aussi ceci qui nous a un peu donné l'idée de ce livre et d'analyser, en attendant que se crée cet instrument-là, qu'est-ce qu'on en peut faire. Et donc, nous voulions rendre quelque part un service à cette extraordinaire mobilisation de la société civile mondiale maintenant, en leur disant il y a des choses possibles. Mais là, je laisse Éric.
Oui, oui. Mais peut-être on va en parler évidemment jusque 13h, mais peut-être puisque vous venez de faire allusion à l'histoire aussi et à l'histoire ancienne et à l'histoire récente, professeur David, est-ce que on n'est pas plus vigilant aujourd'hui qu'il y a 30, 40 ou 50 ans à l'égard de ce type d'agissement?
Ça ne fait aucun doute. Vous avez raison, c'est probablement, je dirais, un des grands progrès de ce siècle, c'est en effet la diffusion de l'information. Dans cette maison, vous êtes bien placé pour en parler, mais c'est vrai que avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux, tout le monde est informé de tout dans le monde entier en temps réel. Ça, c'est tout à fait extraordinaire et exceptionnel. Et cela peut, en effet, c'est pas que cela peut, ça suscite en réalité des réactions, effectivement, très importantes, très sérieuses, très mobilisatrices de la société civile. Et ça, je crois que c'est certainement un progrès.
Alors, cette mobilisation, évidemment, et on en parlera, il faut voir aussi comment la canaliser et comment la rendre active et efficace. Parce que, évidemment, si elle est émiettée, si elle est morcelée, elle ne va pas servir, si vous me le permettez, à grand-chose. Donc, il faut une mobilisation large et lourde, non ?
Regardez l'exemple de la COP21. Il y a une mobilisation vraiment au niveau mondial par des associations qui, j'ai eu l'occasion de les voir et de les voir plusieurs fois à l'occasion des forums sociaux mondiaux, par exemple. Elles sont en relation entre elles, en relation d'informations, d'échanges, vraiment d'informations même extrêmement pointues, parce qu'il y a là-dedans des juristes, beaucoup d'avocats d'ailleurs, mais également des militants de grosses associations comme Oxfam, on a parlé à Oxfam, Amnesty, etc., le CNCD chez nous, les syndicats. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette mobilisation mondiale, c'est qu'elle a été menée par notamment les paysans sans terre, aussi bien au Brésil qu'en Inde. Ce sont des organisations d'une puissance incroyable par le nombre, mais aussi par l'intelligence de la mobilisation. Et chacun s'informe et crée une action en réseau. Maintenant, le problème est: que font les pouvoirs publics de ça ? Regardez ce qui se passe avec la mobilisation pour la COP21 maintenant à Paris. On apprend par les différentes organisations que le gouvernement français refuse de donner des visas à certains des activistes et que cette mobilisation, pourtant pacifique, qui se veut pacifique, qui se dit pacifique, sera extrêmement contrôlée par les forces de l'ordre.
C'est un peu en effet, oui, en effet, une des questions de savoir comment les pouvoirs publics et comment ceux qui se retrouvent vraiment autour des tables de décision utilise évidemment cette mobilisation citoyenne. On va en parler, si vous le voulez bien, dans un instant. Mais d'abord, les titres du journal de 13h.
Donnez votre avis, posez vos questions, échangez vos idées.
Par téléphone au 02 737 3707, par SMS au 60 31 75 centimes le message ou via lapremière.be.
Midi Première.
Vous écoutez Midi Première, le forum, il est midi 33 et nous parlons des multinationales aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un livre intitulé « Juger les multinationales ». Alors on a dit, la parution de ce livre résonne évidemment particulièrement, on vient encore d'en parler, on est dans le contexte de la COP21, des négociations sur le traité transatlantique et il y a déjà plusieurs de nos auditeurs qui ont des questions à ce sujet. Et donc les auteurs plaident pour une cour pénale internationale qui jugerait les crimes commis par ces colosses industriels. Les auteurs, ce sont Gabriel Lefebvre et Éric David. Et si vous souhaitez nous poser des questions ou donner un avis, un témoignage, n'hésitez pas, voici comment nous joindre.
Donnez votre avis, posez vos questions, échangez vos idées.
Par téléphone au 02 737 3707, par SMS au 60 31 75 centimes le message ou via lapremière.be.
Midi Première.
Alors, professeur David, Gabriel Lefebvre, donc tous les deux pour ce livre « Juger les multinationales ». Vous vous êtes partagé, si je puis dire, le travail. Vous, Gabriel Lefebvre, vous exposez les faits, des cas remis dans leur contexte historique. Et vous, professeur David, vous examinez ces cas sous l'angle juridique. Si on donnait un exemple, je vais vous prendre court, Gabriel Lefebvre, un exemple, par exemple, un cas commis que vous relatez dans... alors évidemment, il y a une société qui revient beaucoup, c'est Monsanto. C'est faisable, oui ?
Oui,
professeur David.
Monsanto
vous
est
pris
en
de
effet
court, pardon.
Un cas à la fois emblématique et tragique parce que c'est une affaire qui n'a pas pu conduire au résultat que l'on pourrait espérer. Donc, pour rappel, Monsanto avait vendu à l'armée américaine dans les années 60-70 ce qu'on appelle l'agent orange. L'agent orange est un défoliant qui est fait à base de dioxine, qui est un des produits les plus toxiques qui soit. ce défoliant avait été déversé sur ce qu'on appelait à l'époque la piste Ho Chi Minh, qui permettait au Nord-Vietnam d'approvisionner en armes les rebelles Vietcong au Sud-Vietnam. Et alors, pour essayer de dégager cette piste, les Américains avaient déversé ce produit. Or, ce produit a des effets d'une part tératogènes sur les enfants des femmes qui ont été affectées, qui ont été contaminées par ce produit, et d'autre part, les gens qui sont en contact avec ce produit peuvent développer toute une série de pathologies. Pathologies d'ailleurs qu'on a retrouvées chez des soldats américains eux-mêmes qui avaient été en contact avec le dit produit. Eh bien, il y a eu des plaintes qui ont été adressées devant les juridictions américaines par des associations de victimes vietnamiennes. C'est quelque chose d'épouvantable. Hein. Les enfants qui sont nés, dont les mamans avaient été touchées par ce produit, sont de véritables monstres, hélas. Et malheureusement, devant les juridictions américaines, ça n'a rien donné. Mm-hmm. Ces actions n'ont rien donné. Alors que, en revanche, les vétérans du Vietnam, eux, ont quand même obtenu des réparations. Mm-hmm. Ce qui montre donc bien que... Et là, j'aurais peut-être revenu sur quelque chose que Gabriel disait tout à l'heure. Il ne faut pas penser que les multinationales échappent complètement au droit. Et que une sorte de cour internationale spécifique aux multinationales soit absolument indispensable. En réalité, les multinationales, ce sont des sujets de droit comme tout le monde, mm-hmm. comme vous et moi, et qui peuvent effectivement être traduites en justice devant les justices nationales, mais avec des fortunes diverses. Et Monsanto en est un vivant exemple. Mm-hmm. Un autre exemple, c'est Bhopal. Enfin, depuis, Bhopal, c'est une catastrophe qui a lieu dans les années 60, je pense. Hein, je me tourne vers Gabriel pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Et je pense que les victimes indiennes n'ont toujours pas obtenu des réparations à ce sujet, alors que pourtant, il y a eu des procès et, je pense, des condamnations de Union Carbide, qui était responsable de cette usine. Alors voilà, les livres regorgent d'exemples de ce genre qui ont été parfaitement mis en évidence par Gabriel Lefebvre et qui sont, de ce point de vue-là, très révélateurs quand même des limites de la justice d'un point de vue factuel, d'un point de vue pratique, même si je répète, et là c'est le juriste qui parle, d'un point de vue théorique, j'ai la faiblesse de croire que le droit existe, que le droit peut marcher. Mm-hmm. Vous savez, c'est comme quand j'essaie de rattraper une amortie au tennis, hein, je me dis, il faut y croire, et je cours comme un dératé, parfois je la rattrape et même je fais le point.
C'est ça, hein? Donc même si c'est parfois difficile, et là je ne parle pas de votre tennis, mais plutôt du sujet, ou même perdu d'avance, et qu'en tout cas les réparations obtenues aussi ne sont pas toujours et pas nécessairement à la hauteur des attentes, ce ne sont pas des raisons pour ne pas agir et pour ne pas tenter la chose. C'est
voilà,
ça que vous dites.
Exactement. Mm-hmm. Le droit est là, le droit est un outil et il ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, contrairement aux piles qui s'usent si l'on s'en sert.
Alors, c'est le cinéaste Ken Loach qui dédicace votre livre et qui souligne ce qui est finalement, oui, l'une des grandes interrogations que vous mettez en avant, savoir si ces multinationales dont on parle, qui ont commis des actes répréhensibles évidemment, si ces multinationales-là sont compatibles avec la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une telle concentration de pouvoir qu'on a beau chercher, on ne trouve pas toujours le contre-pouvoir dans ces histoires. Donc, Gabriel Lefebvre.
C'est là tout l'enjeu des négociations du TTIP, par exemple. Enfin, ces grands partenariats transatlantiques, etc., sont entièrement téléguidés par les plus puissantes de ces multinationales qui, évidemment, veulent servir leurs propres intérêts. Mmh. Et c'est logique. Je veux dire, c'est quelque part de bonne guerre. Le seul problème, c'est que face à des pouvoirs publics qui ont été affaiblis et qui continuent à être affaiblis par, je regrette, mais un système politique que l'on peut qualifier de néolibéral et mondialisé, les pouvoirs publics ne peuvent plus, n'ont plus les moyens de lutter. J'ai un petit exemple tout récent qui ne se trouve pas dans le livre parce qu'il est vraiment tout récent. Mm-hmm. Ça date de la semaine passée. L'Équateur a été condamné à payer $1 milliard à la compagnie pétrolière américaine Oxy pour rupture anticipée d'un contrat d'exploitation du pétrole. Donc un pays qui, pour protéger ses terres, ses paysans, son agriculture, son écologie, etc., prend une décision souveraine grâce, ou plutôt à cause des règles de commerce international et notamment d'un tribunal d'arbitrage, accepté de commun accord, malheureusement, un pays n'a plus le moindre pouvoir face à des multinationales aussi puissantes. Parce que ce 1 milliard de dollars, ça représente 3,3% du budget annuel 2016 de l'Équateur. Comment voulez-vous que des pays puissent s'opposer? Regardez la Belgique, tout petit pays. Si jamais on en arrive à des situations de ce genre parce que certains de nos gouvernants auraient le malheur de vouloir privilégier une politique écologique ou de redistribution plus sociale, plus équitable, etc., qui nuisent à des intérêts de certaines de ces multinationales, on passerait devant ces arbitrages privés et on serait immédiatement condamné, bien entendu. Par exemple, j'ai entendu qu'on parlait ici de l'enseignement des universités, etc. Les universités bénéficient dans nos pays d'un certain nombre d'aides, de subventions de l'État et tout ça. Et c'est très bien. C'est la gloire de nos démocraties de financer l'enseignement, etc. Si on accepte un certain nombre d'accords que veulent nous imposer notamment les Américains, n'importe quelle université américaine ou canadienne pourrait venir s'implanter ici en Belgique et exiger d'avoir exactement les mêmes subventions. Sinon, ce serait une entrave inacceptable pour elle à la libre concurrence entre prestataires ici de services, puisque ce sont des services marchandisés. On marchandise les services quelque part. La Belgique ne pourra pas se payer ça. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? C'est qu'il n'y aura plus de subventions pour personne. Donc, ça veut dire que la population devra payer elle-même, comme selon le modèle américain, elle-même tous les frais d'entrée à l'université, de fonctionnement de l'université.
Ce qui va être colossal, évidemment.
Donc c'est un changement radical de modèle et c'est cela que nous dénonçons. Je suis pour le commerce le plus libre possible, mais un changement aussi radical de système basé sur des normes et des valeurs que nous avons, nous, conquis quand même de haute lutte après la Deuxième Guerre mondiale jusque maintenant, ça devient vraiment inacceptable. Et c'est pour ça que se mobilise la société civile.
D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais signaler qu'on a plusieurs réactions d'auditeurs, que ce soit sur le site ou par SMS ou par téléphone, qui parlent des négociations du traité transatlantique en s'en inquiétant, évidemment, comme chaque fois d'ailleurs que qu'on l'évoque. Alors l'un, Blaise, dit « mais on n'a pas d'informations concernant ce traité transatlantique ». Alors c'est vrai que les négociations ne sont pas extraordinairement transparentes et l'argument qui est avancé est toujours de dire « oui, mais des négociations commerciales, elles doivent se faire dans une certaine opacité ». Bon, ça c'est la raison qu'on nous donne. Jean-Claude sur Facebook qui dit « mais les traités de libre-échange ne s'intéressent qu'à la garantie des droits des multinationales et jamais, dit-il, je cite, à celle des citoyens consommateurs, que faire ». Est-ce que cette équation-là, cette façon de voir-là, professeur David, réelle, est exact à vos yeux?
Alors moi j'ai entendu dire qu'il était possible quand même de temps en temps pour les parlementaires européens qui vraiment insistaient très très fort de pouvoir examiner les textes en discussion, mais pas que ça se fait dans une ambiance extraordinairement suspicieuse. Ils ne peuvent pas amener d'appareils photographiques ou de téléphone. On regarde ce qu'ils examinent dans le texte. Et là, il y a une sorte de déni de démocratie qui est tout à fait interpellant. Et je suis, de ce point de vue-là, entièrement d'accord avec ce qu'a dit Gabriel Lefebvre sur le risque, effectivement, de ce phénomène de libre concurrence à tous les niveaux, donc aussi bien au niveau commercial classique qu'au niveau des services publics qui pourraient subir en effet la concurrence de partenaires privés lesquels pourraient s'inquiéter du fait que les services publics sont subventionnés, ce qui serait considéré comme une forme d'atteinte à la libre concurrence. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment inacceptable. Ceci dit, deux choses que je voudrais dire. Première chose, c'est qu'il y a quand même dans le traité des clauses de sauvegarde. Et que l'ouverture, du moins dans les textes que moi j'ai auxquels j'ai eu accès, mais qui sont déjà relativement anciens. À un moment, il y a eu des fouilles, justement, et j'ai pu voir certains de ces textes, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit encore d'actualité aujourd'hui. Mais dans certains de ces textes, il y a quand même des clauses de sauvegarde. Et il semble que c'est surtout à l'État que revient le dernier mot pour ouvrir éventuellement le marché intérieur à des entreprises privées. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, si c'est toujours dans le traité, et ça, malheureusement, je vous dis, là, il y a un problème de démocratie qui est tout à fait criant et qui reste entier. On est dans l'interrogation. Le deuxième point que je voulais dire, je voulais revenir sur ce que Gabriel nous disait à propos de l'affaire Oxy contre Équateur. Alors là, je crois que, évidemment, nous n'avons que des informations de seconde main. Nous ne connaissons pas l'accord de concession qui a été conclu entre l'Équateur d'une part, Oxy d'autre part. Il est possible que dans cet accord, il y avait des investissements extrêmement lourds qui ont été consentis par la société pétrolière en question. Et là, évidemment, il y a, je dirais, une sorte de prudence que l'on doit demander aux États d'observer lorsqu'ils concluent des contrats d'investissement et des contrats de concession avec des entreprises privées pour être sûr de protéger totalement leurs arrières. Vous savez, on parle toujours de ces grands cabinets d'avocats. Alors moi, je n'ai pas un respect particulier pour les grands cabinets d'avocats. Je sais qu'ils sont extrêmement chers, hein, mais en dehors de cela, ils ne sont pas plus compétents que l'avocat de quartier, ou en tout cas que les professeurs d'université, qui eux, ne touchent pas des honoraires particulièrement astronomiques. Mais je crois qu'il est important, effectivement, il est important que les autorités publiques soient très sérieusement encadrées par des experts dans la matière considérée. Et ça peut-être éviter d'avoir ce genre de déconvenue à laquelle a été exposé l'Équateur dans cette affaire.
Alors voilà donc, et c'était aussi une façon de répondre aux deux questions que nous posaient nos auditeurs. Alors on l'a dit tout à l'heure en commençant, dans votre livre, et si nous parlons des multinationales, je rappelle, vous savez qu'ils nous prennent en cours de route, qu'avec Gabriel Lefebvre et Éric David, les deux auteurs, nous parlons de ce livre « Juger les multinationales ». Alors, il y a des degrés divers, je dirais, de crimes, parce qu'on a dit tout à l'heure, parfois, les crimes commis par certains groupes, ils équivalent à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, des crimes contre la nature, et c'est vrai que vous les listez de cette façon. Il y a des degrés divers de crimes et de dérives, qu'ils soient les auteurs directs ou les co-auteurs ou les auteurs indirects de crimes. Alors, il y a les atteintes à l'environnement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, les atteintes aux droits humains et droits des travailleurs, la privatisation des biens communs, les atteintes aux droits à la santé, on l'a évoqué très rapidement. Alors, vous parlez aussi d'une forme d'incivisme, l'évasion fiscale. Alors, évidemment, on a une série de réactions. Je vous en livre une. Elle est plus ou moins... je ne sais pas si on peut parler d'évasion fiscale, mais en tout cas, Jean-Marie, par SMS, qui dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser les ressources du droit européen ?» On sort un peu de votre... pour que les multinationales numériques comme Amazon payent leurs droits, leurs impôts en Europe. Voilà une des questions qui est posée par nos auditeurs, le professeur David.
Alors, je ne suis pas fiscaliste et donc je me garderai bien de me prononcer sur cette question. Je pense que si le domicile fiscal d'Amazon se trouve en Europe, en principe, il est clair que Amazon peut être taxé et imposé. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'est vrai que le problème de l'évasion fiscale est un problème dont l'OCDE et l'Union européenne se préoccupe. Et il y a d'ailleurs dans le discours de ces instances, on parle des pratiques fiscalement dommageables contre lesquelles ces organismes essayent de trouver des systèmes de lutte sur le plan juridique. Mais c'est vrai qu'on est encore nulle part. Et aujourd'hui, il faut bien avouer que le fait qu'un État s'érige en paradis fiscal n'est pas du tout une violation du droit international. D'ailleurs, certains États ont fait, je dirais pas leur fortune, mais en tout cas, peut-être ont assis un relatif confort ou un relatif développement économique sur cette base-là. Le Luxembourg, par exemple, est un pays qui n'a pas énormément de ressources. Et bien, c'est vrai que ça a joué un rôle dans son développement économique. Il n'y a pas, sur le plan du droit international, il n'y a pas actuellement une forme de condamnation formelle de ces pratiques.
Alors, on a dit tout à l'heure, et je me tourne vers vous, Gabriel Lefebvre, que les multinationales n'échappent pas au droit, mais qu'elles peuvent parfois s'en sortir, disons, moins mal pour elles que la situation ne l'aurait exigé, on va tourner la phrase comme ça, mais elles peuvent aussi ne pas échapper au procès citoyen, ce qu'on appelle entre guillemets procès citoyen. On s'interrogeait tout à l'heure assez rapidement sur que feront ou que font les autorités politiques, les autorités publiques d'une mobilisation citoyenne qui se manifeste à un moment donné? C'est toute la question qui va se poser dans les semaines et dans les jours qui viennent avec, par exemple, COP21.
Mais oui, ce qui est intéressant, parce que je voudrais revenir sur ce problème de l'évasion fiscale. Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, c'est très beau, les Nations Unies ont un plan superbe, magnifique, pour tenter de sauver la planète, mais il faut financer ça. Alors il y a eu un accord à Addis Abeba, un des pays les plus pauvres de la planète, ceci entre parenthèses, un accord à Addis Abeba selon lequel les États et le secteur des affaires, unis, ont donc décidé de rassembler une somme de 2 500 milliards de dollars. C'est gigantesque, c'est merveilleux. Mais lors de cette même conférence d'Addis Abeba, ils ont échoué à taxer, à empêcher l'évasion fiscale des multinationales et à mettre sur pied des instruments un peu plus contraignants de taxation. Ça a échoué parce que le politique n'y arrive pas. Le politique n'a pas la volonté de contrer l'espèce de bloc immense que représente la puissance des multinationales les plus riches.
Justement, à ce propos-là, pardon, je vous interromps une seconde parce que tout à l'heure, on disait que le cinéaste Ken Loach dédicaçait votre livre, mais il y a aussi Jean Ziegler, le sociologue, qui le préface, et il rappelle, et il montre avec des chiffres très concrets, combien est concentrée l'économie mondiale, justement, qui a un noyau d'entreprises. C'est pour ça que je rebondis sur ce que vous dites, Madame Lefebvre. Un noyau d'entreprises qui, par tout ce jeu des participations croisées, représente 60% du chiffre d'affaires mondial. Que faire contre cela? Enfin, voilà.
Et ils sont les 1% les plus riches pour lesquels tout le système est construit, est établi, et donc ils entendent bien le défendre, quelle que soit leur concurrence entre eux. Pour ça, ils s'entendent extrêmement bien. Et or, on a calculé, et même Herman Van Rompuy, qui est quand même pas un infâme gauchiste, ancien président de notre Union européenne, lui, il avait estimé que chaque année, à cause de l'évasion fiscale, l'Europe perd 1 milliards d'euros chaque année. Si on taxait mieux, et si on empêchait cette évasion fiscale, et si on taxait mieux les multinationales sur leurs actionnaires, n'oublions pas les actionnaires et la responsabilité des actionnaires sur ces bénéfices qui sont parfois extrêmement importants, il n'y aurait absolument aucun problème pour financer un développement équitable et une protection de la nature. Ça ne poserait pas le moindre problème.
Justement,
on n'y arrive pas.
Non. Alors justement, la question, évidemment, il nous reste 3 minutes, donc je ne sais pas si ça va être faisable, mais la question peut-être à vous, professeur David, la connexion dans toutes ces matières que l'on vient d'expliquer, est-ce que Madame Lefebvre vient encore de dire, la connexion entre le droit et la morale et l'éthique? C'est là qu'elle se pose aussi.
Alors, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants dès la première année. C'est que le droit et la morale ne sont pas la même chose. Et qu'une règle juridique n'est pas toujours conforme au sens moral que l'on peut avoir d'une question, d'une situation. C'est vrai que le droit ne se confond pas avec la morale, mais parfois quand même, il s'en rapproche très fortement. Et nous revenons ici sur ce que le phénomène que vous évoquiez au début de cette émission, c'est quand même ce phénomène des réseaux sociaux qui permet à l'opinion publique de s'exprimer et qui lui permet d'agir dans un sens qui est davantage conforme à la morale et au bien public. Et là, il arrive parfois, pas toujours, que sous la pression de l'opinion publique, le droit finisse par rejoindre la morale. Moi, personnellement, je suis indécrottablement optimiste, et donc je pense que on peut y arriver et qu'il y a des choses là qui peuvent se faire. Le tout, c'est d'y croire. C'est le credo.
Oui, un mot là-dessus pour terminer, Madame Lefebvre. Oui.
Je tiens aussi à être optimiste dans la mesure où je vois cette extraordinaire mobilisation citoyenne. Que demandent les gens dans le monde entier? C'est la justice. C'est de la justice et de la démocratie. La démocratie, telle que nous l'entendons, étant censée appliquer la justice. Et ils veulent aussi, et là, si je peux me permettre de citer un économiste, on a fait beaucoup référence à des économistes, on en a critiqué énormément, mais il y en a un qui s'appelle Karl Polanyi, qui, déjà en 1947, disait « Ne laissez pas l'économie aux économistes, mais rendez-la aux acteurs sociaux. Une économie qui mène sa propre vie dévore le social et son environnement. » Donc démocratie, démocratie, des pouvoirs publics qui se réinstaurent, si j'ose dire, en tant que pouvoir public pour le bien commun. Et le bien commun, c'est celui de l'humanité pour l'instant.
Je vous remercie infiniment d'avoir été les invités de ce forum pour nous donner évidemment cet éclairage. Alors le livre est paru une édition du GRIP chez Mardaga. C'est Juger les multinationales, droits humains bafoués, ressources naturelles pillées, impunité organisée. C'est signé Éric David et Gabriel Lefebvre. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été avec nous. Bien entendu, nous nous retrouverons pour un nouveau forum demain midi et midi première. Maintenant, continue avec le journal de 13h dans quelques instants.